connais pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde!
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Bonjour à toutes et à tous, salut Marie, pourquoi tu me regardes avec des grands yeux comme ça, ça va ?
Bonjour Gilles, non, parce que tu m'as surpris.
Mais je t'ai réveillé un peu, excuse-moi, salut Gilles.
Salut, salut, bonjour, bonjour.
Tout le monde va bien ?
Oh oui. Bah écoute,
ça se voit.
Avec un soleil magnifique.
Non, à vrai dire, on peut pas vous expliquer, mais on n'a pas bu le café, donc ça va absolument pas du tout. Moi, je sais pas si je vais tenir une heure sans
café. Non, mais on va faire une pétition, c'est un scandale. Dans cette radio, on a laissé entartrer la machine à café, parce qu'il faut filtrer l'eau, il y a beaucoup de calcaire en Saint-Afrique.
Bon, voilà, quand vous voulez faire une émission sur tous les tontons sans avoir bu de café. Hein,
c'est pas possible. Est-ce qu'on salue le premier jour du renouveau du soleil qui revient ?
Ah ouais, ouais. Ouais, on rentre en hiver.
Ah oui, ça y est, les jours rallongent, tu veux dire.
On rentre en hiver. Ah bon ?
On rentre en hiver et les jours rallongent.
Oui, mais les jours rallongent,
les jours rallongent.
Oui, voilà, tu parlais du solstice, toi.
Oui.
Hein ? Ou je me méfie des loups-garous, moi. Bon, enfin, on va pas vous raconter notre vie. Salut, je disais à toutes et à tous. Bienvenue sur les œufs, tontons, flingueurs, the dernière émission avant tout le tripatage des fêtes et des machins qui vont passer et tout. Voilà, donc on vous dit tout de suite, comme ça, on vous le répétera après, avant la fin de l'émission. C'est la dernière avant le 5 janvier. On se retrouvera après le 5 janvier. Ça veut pas dire qu'on va pas bosser, d'ailleurs, parce que nous, on va en enregistrer très plein pendant ce temps-là, mais nous, le direct, c'est jusqu'au 5. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est jeudi, nous sommes en direct. Les rediffusions de cette émission, vous le savez maintenant, 19h-20h le jeudi, et le samedi de 16h à 17h. Avant de vous donner le sommaire, je vous rappelle que vous avez un numéro de téléphone auquel vous pouvez nous engueuler, nous accrocher, nous faire des bisous, 05 65 49 29 94.
Et on peut nous envoyer des emails également sur Radio Saint-Afrique.
Ça marche mieux, ça, visiblement. Hein, j'ai l'impression que les gens, vous avez raison, vous préférez garder votre petite anonymat, ne pas nous dire bonjour, c'est machin.
Avec
un pseudo, voilà, 3615 Louisa. Si vous voulez d'ailleurs téléphoner sous un pseudo, vous avez le droit. De toute manière, on vous grillera quand même.
Il est encore au Minitel, 3615 Louisa, c'était du Minitel.
Ça fait un peu vieux con, on se reconnaît que c'est un peu rétro l'histoire. Vous oubliez tout, j'ai rien dit. Au sommaire aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler quand même d'un truc qui fait pas du bien, la Turquie, les relations de la France, enfin on va dire de la France non parce que c'est les relations de Sarkozy et de la Turquie, donc on est bien obligé d'en parler. D'abord parce que pour nous c'est autant du local que du national, c'est-à-dire que nous avons une communauté turque ici, on les connaît d'ailleurs assez peu parce que c'est des gens qui sont discrets, qui restent souvent, c'est un petit peu normal entre eux, quand on les connaît un petit peu mieux c'est des gens qui sont très très sympas. On va parler de nos expériences, Gilles, toi tu es allé en Turquie, on va essayer de mettre tout ça,
j'y ai vécu même un certain temps, oui.
On va essayer de mettre un petit peu tout ça en exergue par rapport à ce qui nous en est dit ou à l'image que l'on en a par le prisme des médias d'une manière générale. On va essayer de comprendre tout ça en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, qu'est-ce que c'est long le sommaire, dis donc, il faut une respiration, là, faut être sportif. Hein. Tout de suite, c'est l'actu fun, comme on dit. C'est-à-dire qu'en général, on balance des grosses. Bip ! Gilles !
Des conneries, quoi !
Voilà, tu voulais parler de la condamnation de Chirac ?
Ah, mais tout de suite, on en.
Ah, mon attaque,
oui, on
qui... Non, mais c'est une émission de radio, Gilles.
C'est le bazar ce matin-là.
C'est une émission de radio.
C'est pas marqué comme ça sur le conducteur, c'est pour ça.
Je t'ai dit hier que je les prenais dans le désordre.
D'accord, d'accord. Non, j'étais un peu frustré parce que jeudi dernier, lorsqu'on a enregistré l'émission précédente, tombait la condamnation de Chirac et on n'a pas pu en parler à l'antenne puisque c'était au même moment. Donc, c'était un petit peu difficile. Il y a un article dans le Canard cette semaine qui revient un petit peu sur l'histoire de notre ancien président. Alors, un monsieur pour qui ça a fait pchit et abracadabrantesque pendant de nombreuses années, le couperet est tombé. Et tous les commentateurs se sont succédés pour dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez. 2 ans, donc, de tôle avec sursis, c'est-à-dire que si jamais il fait une bêtise, là, maintenant, il prend 2 ans ferme, quoi.
Bon, ça dépend si la bêtise est d'une façon antérieure.
C'est peu probable. Qu'est-ce qu'il va faire comme bêtise, Chichi, attends, à son âge ?
C'est vrai qu'à part ton...
dans un parc, avec des petites filles, non ?
Voilà, je sais pas, qui montre son zizi.
Bon, moi, d'abord, je dis un truc. Bon, il y a des gens qui disent... super, il a été condamné. Alors, il y a peut-être 2 lectures là-dessus. Le symbole, évidemment, d'un point de vue, enfin, un politique est condamné, même avec sursis. Ça, c'est le côté qui peut... Enfin, que j'ai entendu positif. Souvent, le côté positif que j'ai croisé toute la semaine, que j'ai entendu toute la semaine.
Et on rappelle quand même de quoi il était accusé. Abus de confiance, détournement de fonds publics, ingérence et prise illégale d'intérêts et emplois fictifs. C'est quand même... C'est un peu lourd, quoi. Hein.
Pour aller au bout de l'analyse, ça n'est intéressant que si c'est une jurisprudence. C'est-à-dire que derrière, ça ouvre la porte... aux condamnations un peu plus fréquentes des politiques qui ont fauté d'une manière générale, mais qui ont fauté d'une façon judiciaire, hein, pas des types qui ont fait des petites conneries, machin, je parle pas de... Maintenant, le problème, c'est qu'avec ce genre de jugement, si Chirac prend 2 ans avec sursis, Sarkozy, avec ce qu'il a sur les épaules, il passe à la guillotine directe, je veux dire, on règle le problème très vite. Moi, je trouve ça un peu faux cul, quand même. Le mec, il est à la retraite, il va bientôt disparaître, on lui met 2 mois avec sursis, ça veut rien dire, finalement, quelque part, c'est du foutage de gueule, quoi. Soit on le met en tôle, soit il y va pas.
Non, bah c'est symbolique. On va pas le mettre en tôle, le pauvre.
Bah alors qu'on fasse rien, ça fait faux cul.
Ah ouais. Surtout que ça permet de planquer les fausses factures, les marchés truqués, les électeurs fantômes, les frais de bouche et les comptes au Japon.
D'ailleurs, ils ont pas réagi.
Ça permet de planquer plein de choses.
Ils ont pas réagi d'ailleurs, à part un petit communiqué de la famille pour dire bon, on n'est pas d'accord.
Alors. Bah il faut dire que lui, il était prêt à faire appel, mais Claude, sa fille et Bernadette ont essayé par tous les moyens de lui conseiller de ne pas faire appel parce que ça aurait plutôt remué la mouise et ça sent pas bon forcément, donc de s'en arrêter là. Et puis il avait quelques anciens directeurs de cabinet, des anciens collaborateurs qui s'étaient mis un petit peu ensemble et qui étaient prêts, si jamais ils étaient inquiétés, eux, de porter plainte et puis de balancer tout ce qu'ils savaient, quoi. Donc, même ses avocats lui ont conseillé de ne pas faire appel, de laisser les choses en l'état, parce qu'effectivement, ça aurait pu être bien, bien pire.
Un peu dubitatif sur ce coup-là, quand même, hein. Marie, tu voulais nous expliquer les andouillettes, toi. Tu as trouvé un truc de la semaine dernière, toujours pareil. On parlait des 3A, des 4A, des 5A, et on s'est demandé finalement comment l'andouillette était.
Qu'est-ce que c'était que ce AAAAA? Parce que c'est ça normalement le label, c'est les 5A.
C'est
5A la vraie andouillette.
D'accord.
Eh bien, alors, figurez-vous que le label 3A, ça n'existe pas du tout, et que le label AAAAA que vous voyez sur les menus de restaurant, ça signifie que c'est l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques qui a diplômé l'andouillette en question.
D'accord.
Donc si tu veux, notre label 3A, c'est l'association amicale des amateurs qu'on va perdre. Tout simplement, ce sont les deux dernières. Donc c'est fondé en 70 par des chroniqueurs gastronomes et qui, dans une saine ambiance, diplôment ces belles andouillettes. Donc un truc effectivement que vous pouvez aller voir sur internet. D'ailleurs ils ont un site, c'est les amateurs d'andouillettes.
Voilà.
Alors, il y a des gens qui ont vraiment rien à foutre.
Pendant l'émission hier, la seule question qui se posait, et d'ailleurs c'était la seule question importante, personne n'en a dormi cette nuit, c'était de savoir si je devais rebondir sur l'économie derrière cette ouverture, cette mise en bouche pour parler poliment.
Allez, vas-y, ouverture. Fais-nous un petit cours.
Non mais on a appris un truc intéressant hier quand même, la BCE, la Banque Centrale Européenne, va filer 485 milliards d'euros, oui on parle
des milliards,
j'ai failli parler en francs, imagine.
Non.
D'euros, des milliards. Et ils vont les filer à qui? Ils vont les filer aux banques, à 1%. Alors on vous explique la fin, c'est vachement bien, mais il faut comprendre quand même. On file des thunes aux banques à 1%, et les banques, qu'est-ce qu'elles font? Elles reprêtent aux États. Officiellement à 1%, hein. Mais même si c'est 1,2, déjà ils s'en sont mis plein les fouilles. Bon, on leur reprête. Mais pourquoi la BCE ne prête pas directement aux États? Donc on est en train, on se rend compte finalement que l'État n'a plus une thune pour sauver les banques. Mais on va prêter aux banques pour sauver l'État, donc on capitalise les banques plein fer. Mais c'est quoi cette histoire? Alors finalement, le 3, tout ça, toutes ces spéculations, ça n'a pour objectif que d'assécher les États, c'est bien ce qu'on pensait depuis le départ. Quoi.
Et d'engraisser les banquiers.
Et d'engraisser les banquiers qui sont d'ailleurs tous en train de se faire torpiller par les agences
de notation. Ah, ils viennent de se faire dégrader, le bon sens près de chez vous, là, ils viennent
ils ont perdu
leurs droits, oui.
Mais il faudrait pas trop rigoler, parce qu'il y a des salariés qui dégagent quand même tous les jours en ce moment.
Ça dégraisse du côté des salariés, mais ça engraisse du côté des milliardaires qui n'ont jamais été aussi gras et aussi nombreux.
Au fait, on peut rappeler qui c'est qui donne des sous à la Banque Centrale Européenne? La
non,
BCE
ben,
qui
vas-y,
c'est,
vas-y.
Mais qui c'est qui amène du fric à la BCE?
Bah, je sais pas, les Chinois.
C'est les États, non?
Bah non, c'est les États.
Oui, c'est ça. Oui, non, c'est
ou la banque, ou les banques.
Dingue.
C'est le serpent qui se mord.
Ah, mais complet. Les banques passent des thunes à la BCE pour capitaliser
la
BCE.
Moi, je pensais que la BCE empruntait elle-même, je sais pas, aux pétroliers ou aux Chinois, non?
Alors, je sais pas, aux Chinois, je peux pas te dire s'il y a des Chinois partout, faut arrêter de voir des Chinois partout. Parce que je sais pas ce que vous voyez, des Chinois partout, il y en a qui voient des nains partout, d'autres c'est les Chinois. Bon.
Brusquement, elle a les yeux bridés de l'autre côté, là. Chloé,
elle, voilà, comment tu
Chloé est un peu chinoise, ouais, Chloé, attention. attention. Hein.
Bonjour Chloé, qui a l'air vachement réveillée autant que nous d'ailleurs. Non, mais quand même, faut préciser, dernier point là-dessus, on passera tout de suite à la brève suivante. Il faut quand même bien comprendre que pourquoi l'État français va emprunter à 1% aux banques qui elles-mêmes ont emprunté
pourquoi
1%.
Pourquoi tu prends l'acteur
utile ? Je vais vous expliquer. C'est pour racheter de la dette italienne. À 7%. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? L'État, les banques, je reprends, allez, dans l'ordre. Les banques empruntent à la BCE 1%. L'État emprunte aux banques 1%. L'État, lui, va replacer ça sur des obligations pour gagner de l'argent à 7%. Le problème, c'est que c'est les obligations, c'est la dette italienne. Voilà, chacun pensera après ce qu'il veut sur le sujet. Je vous remercie de votre solidarité, bande d'enfoirés.
Si vous avez du pognon, dépensez-le.
On est juste atterrés, quoi, mais qu'est-ce que tu veux qu'on...
Non, mais il y a un truc, c'est qu'en ce moment, tout le monde serre les miches et apparemment ne consomme plus en ce moment. Parce
ouais, mais ils ont raison, les gens.
Mais non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut tout craquer parce que bientôt, ça ne vaudra plus rien.
Ah, tu t'encourages les gens à consommer, toi. Tu vieillis mal, quand même. Allez, aéroport.
Ça arrivera.
Ouais, bah, je sais bien. Dans les aéroports, échec des négociations, tout au moins hier soir, grève reconduite à Roissy. Alors, maintenant, voilà, une société privée, disons-le, les sociétés privées, disons-le clairement, font grève. Et on est dans l'éternel débat qui nous-mêmes nous a divisé lors de la préparation de cette émission. Faut-il faire grève ? Faut-il les laisser faire grève ? Non, les salauds, ils emmerdent les voyageurs. Votre opinion ?
Ben Marie, t'étais contre.
T'étais contre.
Ah ouais, écoutez, vous étiez ligués tous les deux avec, oui, le droit de grève, etc. Effectivement, le droit de grève. Maintenant, le faire à Noël, oui, je trouve que c'est dégueulasse.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est quand même normalement la période où tu vas voir ta famille, que dans le tas, il y a des gens, à mon avis, c'est leur seul voyage de l'année, peut-être qu'ils sont à l'étranger, qu'ils voient leur gosse une fois par an ou des trucs, et je trouve ça particulièrement dégueulasse de choisir Noël.
Donc toi, tu relais la notion de « on prend les voyageurs en otage », quoi.
Stop. Alors là, prise d'otage, c'est une
honte.
Ça y est,
je l'ai fait exprès, je savais que ça allait réagir pour faire.
Cette expression... Ah non, c'est une honte. Cette expression banalise la prise d'otage.
On est d'accord.
Je pense que c'est par rapport à tous les ceux qui sont encore aux mains d'Al-Qaïda et ailleurs.
C'est des barbouzes, attends, c'est bon.
Ça fait rien, je veux dire. Non, il y a des otages qui n'ont rien choisi du tout. On a des copains qui sont au Mali en ce moment, ça va peut-être leur arriver. Non, c'est un scandale, quoi. Je veux dire, il faut arrêter avec la banalisation de ces mots qui ne veulent plus rien dire après. Cette histoire de prise d'otage, moi, me fait chier. C'est comme le Wauquiez avec son cancer de la société, là. C'est pareil, quoi. C'est
une honte. Qui s'est fait démonter sur le plateau de Ruquier. Ça
on en revient à cette histoire de grève. Effectivement, c'est un argument, Marie, ce que tu as. Mais si on fait une grève qui emmerde personne, elle sert à rien.
Mais c'est la négation
elle
du emmerde, droit
elle, elle emmerderait quand même des tas de gens en dehors d'une période aussi chaude que celle-là
c'est un
pour
bras de fer.
Personnel.
C'est un bras de fer. Moi, il me semble que de toute façon, ils vont lâcher. Et l'État, et ça, c'est une honte, a décidé d'envoyer des CRS pour remplacer des gens privés.
Alors, les flics, ils ont réagi quand même. Ils ont dit,
on ne veut pas être manipulés. Les syndicats de police ont réagi. Il faut rappeler quand même que donc ces personnels qui sont en grève, c'est les personnels de sécurité qui vérifient que vous n'ayez pas de bombe sur vous, qui vous passent au détecteur, machin, etc. Ces entreprises ont été privatisées. C'était des flics qui faisaient ça avant. Ça a été privatisé pour faire grossir certains patrons qui sont bien contents d'avoir ce genre d'officine en 96. Et là, maintenant, on va briser des grèves privées avec des flics qu'on a mis de côté à l'époque. Enfin, c'est ubuesque.
Ouais, c'est alors, revenons à la grève. Marie, vas-y, toi.
Oui,
reviens sur ce sujet.
On l'a évoqué hier. Et oui, moi, je suis pour le service minimum dans les transports, en tout cas, parce que c'est on est dans un pays où je pense quand même que les salariés sont plutôt bien protégés par rapport à ailleurs. Donc, même si on se fait... Il y a des gens qui travaillent beaucoup pour pas grand-chose. C'est pas non plus... Ce n'est pas de l'esclavagisme. Mmh. Ce qui est sans doute leur cas. Ils ont peut-être des revendications tout à fait légitimes, ces gens-là. Maintenant, les transports... moi, justement, un producteur d'andouillettes qui fait grève ou mon coiffeur qui fait grève, je m'en fous. Les transports, non, c'est trop...
C'est un droit de grève sélectif.
Eh bien, pourquoi pas pour des professions où vraiment, là...
Moi, je suis scandalisé par ce que j'entends.
Allez-y les gars, allez-y, attendez,
c'est un truc de fou, c'est-à-dire que grosso modo, si on commence à mettre en face du droit de grève le fait que ça gêne des gens en face, n'en parlons plus, arrêtons le droit de grève, c'est terminé, on fait le chantier.
Écoute,
quoi.
Là, je suis désolée, mais ils ont vraiment déconné. Il y a une poignée de gars qui en emmerdent des tas d'autres dans une période vraiment importante. Bah non.
Ouais, il marche plus le petit truc à faire des bruits là, ou très mal. Non, moi j'entendais sur Inter ce matin en prenant mon petit déj, j'écoutais ce que ces gens avaient à dire justement. Ils disaient, mais nous, pendant les fêtes, jamais on est en famille. Pendant les jours fériés, tous ces trucs-là, nous on bosse quoi. Alors, les gens disent, ouais, mais vous nous emmerdez pendant les fêtes. Mais eux, ils sont emmerdés tout le temps.
Non, mais c'est ce discours.
Non, mais attends, on les a pas obligés à faire ce job non plus. Oh,
c'est le fameux discours qu'on a eu la semaine dernière par rapport à la Poste, ou il y a trois semaines par rapport à la Poste. La question se posait quand on voyait les réactions hallucinantes des usagers de la Poste. Des usagers de la Poste. On peut même pas dire des usagers d'ailleurs, parce que ça reste encore jusqu'à preuve du contraire un service public. Donc, dans le cadre de tes impôts, on continue de te distribuer chez toi gentiment dans ta petite boîte aux lettres où que t'habites en France, même au fin fond du monde, du courrier. Le jour où ces gens-là se mettent en grève pour une raison valable ou pas, finalement, le fond de la discussion ne s'est même pas d'analyser la justesse ou la non-justesse de la grève, parce que là on se positionne comme des censeurs, t'as le droit de faire grève, t'as pas le droit, le problème il est même pas là. Si un jour ces gens-là décident de faire grève pour une raison X ou Y, tu as 90, dans l'état d'esprit de la société aujourd'hui, 99% des gens qui vont dire ils nous emmerdent, on reçoit pas notre courrier tous les jours. Donc on est arrivé, les gens qui nous gouvernent sont arrivés à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire voilà. Un tel individualisme que plus personne ne reconnaît à personne le droit de défendre son beefsteak. À partir de ce moment-là, on est loin.
Ça monte les Français les uns contre les autres. Et qui sont les responsables? C'est encore une fois, c'est plutôt l'État qui a très très mal organisé ce truc-là et qui a privatisé en 96 pour faire plaisir à ses petits copains.
Alors,
quoi.
Peut-être qu'effectivement, il faudrait que ce ne soit pas privé.
Mais c'est trop tard. C'est comme les autoroutes. Hein, les autoroutes, voilà. Ils ont fait exactement la même chose. Hein, alors que c'est un truc qui est rentable.
C'est nous qui avons payé
les autoroutes avec nos impôts. Et puis après, on les refile à des mecs qui se font très gras là-dessus. Quoi.
Par contre, le jour où les salariés du privé sur les autoroutes vont s'amuser à ouvrir les barrières de péage pour montrer qu'ils font grève, là, tu vas voir que tout le monde, tu as 99% de la population qui va être pour. Il est temps quand même de se rendre compte dans ce pays qu'on est arrivé à faire quelque chose d'hallucinant, c'est-à-dire qu'à nous faire analyser le droit ou le non-droit de grève uniquement par rapport au fait que ça nous dérange ou pas.
Mais là, on tient un truc. Il faut leur suggérer, donc à ces personnels, de faire des trucs intelligents.
Positifs. Voilà.
Positifs, c'est-à-dire qu'au lieu de faire grève et de d'empêcher, ils ouvrent tout et ils font passer les gens.
D'abord, ça serait. Mais oui, alors ça serait rigolo.
Ça touche à des problèmes de sécurité. Et vous allez voir que ça va être retourné en deux secondes.
En deux secondes, ça va être. Vous laissez passer Al-Qaïda
dans les aéroports.
Ta notion d'individualiste, je suis pas du tout non plus d'accord, parce que ceux qui font justement cette grève à Noël, si c'est pas ça, des putains d'individualistes, alors moi je sais pas ce que c'est l'individualisme, quoi.
Bon, enfin, débat à suivre. Moi je suis pas d'accord.
Mais attendez, on va se retrouver dehors, on va s'étriper tout à l'heure.
C'est un bon sujet au repas de Noël.
Gilles, salaud de pauvre. Enfin, c'est pas toi le salaud de pauvre, hein. C'est le sujet suivant.
Je m'en étrangle. Alors, source Canard Enchaîné que je vous conseille, et c'est un bon cru cette semaine. Ils sont, tenez-vous bien, vous êtes assis, j'espère, là, ouvrez bien vos esgourdes. Ils sont 1 600 000 fauchés qui renoncent à affronter les démarches pour toucher le RSA.
Combien t'as dit ?
1 600 000.
De gens qui n'ont pas thunes et qui ne veulent pas y aller. Pourquoi ?
C'est-à-dire, ça réagit à Wauquiez qui disait que l'assistanat était le cancer de la société, là. Eh bien, il y a plein de gens qui refusent d'être assistés. Il y en a beaucoup, un tiers des ayants droit. C'est quand même pas mal du tout. Oui. C'est-à-dire que le RSA coûte 7 milliards à l'heure actuelle et il faudrait en rajouter 5 milliards supplémentaires si tout le monde demandait son dû.
Il est malin de Wauquiez, là. Alors, c'est un mec, pour ceux d'entre vous qui le connaîtriez pas, qui présente bien, il a 35 balais, il est jeune, hein, il fait jeune, il est... Puis alors, il arrive avec un discours de gauche... sur le plateau, donc je disais tout à l'heure.
Mais ils adorent ça, c'est la nouvelle méthode.
C'est la nouvelle méthode, c'est trop fort en communication. Ils arrivent sur le plateau de Ruquier samedi, Wauquiez arrive, star, il s'assoit, décontracté, les jambes qui balancent, vas-y, tout juste tutoie avec les journalistes et tout. Puis alors il se dit, ouais, j'ai bien réussi mon truc, enfin, ça part vraiment sympa la discussion.
Voilà, je les ai bien chauffés.
Et puis il a son bouquin, parce qu'évidemment le mec il vient vendre son livre, et son livre c'est une petite merveille de programme pour le Parti Socialiste, c'est-à-dire grosso modo, c'est moi demain je vais sauver le monde, je suis la tendance sociale de la droite. Donc je suis vraiment quelqu'un avec qui on peut discuter. Alors évidemment les journalistes lui disent mais vous êtes quand même bien là, un peu en torpilleur pour 2017. Et le mec dit non, pas du tout, moi je suis là pour amener des idées. Et alors derrière, il a ramassé pendant une heure, les deux journalistes lui ont dit bah, attendez mon monsieur Wauquiez, tout ce que vous dites c'est super, effectivement vous pourriez être au Parti Socialiste, mais vous pouvez nous expliquer pourquoi toujours chez vous les solutions c'est toujours les pauvres qui doivent casquer.
Ouais,
c'est toujours eux qu'on tord, c'est toujours de leur faute s'il y a des gens qui profitent du système. Et alors là, il commençait à être emmerdé l'autre, et puis on lui dit, mais après tout, pourquoi vous faites partie de ce gouvernement? Pourquoi au moment du bouclier fiscal? Si ce que vous dites est sincère, pourquoi vous ne vous êtes pas opposé? Alors là, il a commencé à s'enferrer en disant « Oui, je dois reconnaître que c'est une erreur. » Mais d'ailleurs, nous l'avons annulé, nous nous en sommes rendus compte.
Oui. Sous voilà, pression Wauquiez. Au bout de 5 ans.
Wauquiez, il faut présenter le personnage quand même. Hein. C'est la nouvelle droite.
Le maire du Puy-en-Velay et le roi de la lentille.
Alors là, on a un mec. Alors là,
un héros.
Ouais, ah, ouais. On lui fait alors, un poutou en direct.
Vous n'avez pas, non pas invoqué, mais vous n'avez pas l'image. Il faut expliquer aux auditeurs quand même. C'est que Philippe, notre responsable technique en chef de Radio Sainte-Afrique, vient de nous amener le café.
Alors ça, moi je dis, j'ai pas vu ça depuis
l'émission
des années.
Va pouvoir décoller.
Ah voilà, donc vous pouvez téléphoner si vous aussi vous voulez un café au 05 65 49 29 94. Voire il vous reste encore 40 minutes pour venir le prendre dans le studio en direct.
Voilà, exactement. Hein voilà. Sans faire de concurrence au bar de la ville, il faut savoir que, sauf si vous êtes 50 en même temps, mais vous pouvez venir boire le café à la radio
et raconter
et discuter
conneries
le bout de gras et voilà. Venir dire des conneries au micro.
Bien, alors moi j'ai un petit sujet concernant quand même quelque chose qui nous est passé un petit peu à travers la semaine dernière, il y a 15 jours, c'est un truc qui a déjà un mois. Le fichier national des empreintes génétiques, vous savez qu'aujourd'hui la grande
mode...
Et
non pas les empreintes génitales Hortefeux qui avait...
Ah bon
Hortefeux avait fait le lapsus, il avait dit à la place d'empreintes génétiques, il avait dit empreintes génitales.
Parce qu'il venait de croiser Rachida Dati, ça
oui,
si
voilà,
je me souviens.
Oui, voilà, après l'inflation.
Il venait de croiser Rachida Dati. Le fichier national des empreintes génétiques doit être jugé au regard des droits de l'homme. Qu'est-ce qui permet ce titre ? Sur un mail qu'on a reçu d'ailleurs d'un de nos chers auditeurs, ces dernières semaines, 34 personnes se sont vues proposer une indemnisation de quelques milliers d'euros en contrepartie de l'arrêt de leur plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme pour fichage génétique qu'ils estiment abusif. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas n'importe qui. Ces 34 personnes sont des faucheurs d'OGM. Ils ont assumé leurs actes devant les tribunaux et ont été condamnés pour destruction de biens privés aggravés en réunion. Le problème, c'est qu'évidemment, au moment où on les a gaulés, on a pris leurs petites empreintes et eux, ils estimaient que c'était absolument
non,
pas normal.
Attends, je t'arrête. Les flics voulaient prendre leurs empreintes. Ils voulaient et eux ont refusé. C'est pour ça qu'ils ont été condamnés. Vous êtes en droit de refuser de donner vos empreintes, qu'on vous mette un coton-tige dans la bouche pour piquer votre salive. Vous avez le droit de refuser. Mais c'est condamnable et c'est pour ça qu'ils avaient été condamnés. Seulement, c'est contraire, et je te passe la suite.
La loi, alors, il faut bien savoir qu'il y a, depuis les attentats en 2001, Bush a réussi à imposer à l'intégralité de la planète une loi, des lois, qu'on appelait les lois sur la sécurité intérieure en France, la LSI, qui a été votée par Lionel Jospin, malheureusement, mais que tout le monde s'est un petit peu couché devant les Américains. Et dans le cadre de cette LSI, on a, de cette loi sur la sécurité intérieure, on a un fichier, le fichier national des empreintes génétiques, qui a été étendu à la quasi-totalité des délits, y compris mineurs, ça couvre 130 infractions, atteinte aux biens, atteinte aux personnes, tout est concerné sauf les délits financiers.
C'est bizarre.
C'est étonnant, non ? Alors, dans ce cadre-là, bien évidemment, vous avez le droit, je dirais même le devoir, de vous opposer au fichage génétique. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'État a quand même demandé l'inscription de ces faucheurs. Eux, ils ont dit, on n'est pas d'accord. Ils ont carrément attaqué l'État français pour violation des droits de l'homme en appel, en cassation.
Et c'est monté à l'Europe.
Après de longs mois d'attente, ils ont reçu une proposition d'arrangement à l'amiable sous forme d'une indemnisation, je vais y arriver, individuelle, en échange de l'abandon de l'action engagée pour faire valoir leurs droits. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces braves chauffeurs ? Eh bien, ils ont dit à l'État, vous gardez vos thunes, on n'en veut pas.
Ça, c'est génial, ça, c'est 1500 très fort. Quand même. Ils ont refusé 1500 euros. Et certains, je les connais.
Voilà.
On les connaît, il y en a pas mal dans le coin.
Certains ont besoin de thunes d'ailleurs.
Ils sont vraiment à 1500 euros près, plus que ça même. La plupart ne touchent pas le RSA, ils sont vraiment au minimum.
Estimant que le sujet dépasse largement leur cas individuel, ils ont renvoyé évidemment, c'est un sujet qui renvoie au respect de la vie privée, plus généralement des droits de l'homme. Donc ils estiment aujourd'hui que l'État doit répondre de ses actes. En l'occurrence, le fichage de plus d'1,7 million de personnes, parmi lesquelles au moins 1 million n'ont jamais fait l'objet de la moindre condamnation.
Et donc, peut-être l'État français condamné par l'Europe à ce moment-là.
Peut-être, c'est ce qu'on attend, rapidement.
Mais quel plaisir de refuser du fric de l'État, franchement.
Qu'il y en ait au stade de magouiller comme un petit...
On va transiger, vous voulez pas un petit 1500 et tout ? Non, on va te faire foutre. Quel plaisir,
bon,
ils ont
bon
dû
ça.
Prendre un panard d'enfer.
Et pour rappel, si vous voulez les soutenir, même au niveau national, c'est simple, c'est le collectif des faucheurs volontaires. Et ils en sont au stade où ils appellent les défenseurs des droits de l'homme à mettre en débat les risques que fait courir un tel fichier de masse. Voilà, nous avons un dernier petit sujet, les prothèses pipe. C'est
oui,
quoi ça ?
Les prothèses pipe.
Nous
oui
sommes pour la pipe.
Alors, les prothèses pipe, donc vous savez qu'il y a, je crois que c'est 30 000 femmes qui sont rappelées pour...
Des prothèses mammaires,
des
faut prothèses le dire.
Pour un défaut de fabrication.
Des défauts de fabrication des femmes, voilà, qui doivent être intégralement démontées. Sans jeu de mots.
Les pauvres,
voilà.
Les pauvres.
Alors,
est-ce que l'État paye le contrôle technique déjà?
Il y en a qui ne seraient pas contents de se faire démonter, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, non, alors justement, j'ai essayé de passer à alors, autre chose.
Mais Marie, on va la mettre dans la merde avec ce sujet.
Non, non.
Alors, ça émane quand même le sujet où l'histoire des prothèses mammaires, on vit quand même un gros moment de libération de la femme, puisque énormément de femmes donc, se font soulever les muscles du thorax, parce que c'est ça quand même, hein, se mettre des implants mammaires, on vous décolle pour mettre les implants.
Elle fait les gestes en même temps.
Alors nous, on a le droit à l'image aussi.
Pour implanter ces machins un peu gluants, là, les prothèses pipe et autres.
Et ben, c'est des poches de silicone.
Voilà, je ne sais pas ce qu'a fait Gilles sur lui, mais il est très au courant. On ne sait pas où est-ce qu'il s'est fait implanter.
J'ai une
des
ancienne
choses.
Compagne qui l'avait fait faire.
D'accord.
Voilà. Et donc, il ne faut pas juger non plus. Pour certaines...
Du tout. Non, on n'est pas là-dedans du tout.
Non, parce qu'on a tendance là, à culpabiliser les femmes qui l'ont fait en les traitant de je ne sais quoi, etc. Non. En leur disant c'est bien fait pour leur gueule ou je ne sais quoi. Pour certaines femmes, ça a été un équilibre et elles ont retrouvé quelque part quelque chose.
Une féminité peut-être qu'elles recherchaient tout simplement.
Absolument. Donc ne jugeons pas.
Je ne juge pas du tout les femmes qui...
C'est vrai, après tout, arrête de juger toi aussi.
Cette opération, qui, je tiens à le dire, qui est quand même quelque chose de terriblement
lourd
et épouvantable, puisque, je le répète, on te décolle les muscles du thorax. Attendez, on l'arrache de l'os.
Ouais, t'es endormi quand même.
Après, on peut pas nous faire croire
qu'on fait ça à vif.
Non, on fait pas ça à vif. Mais pour glisser les trucs, et après, c'est des semaines avec des bandettes pleines de pus. Attendez, ça, on le dit jamais.
C'est dégueulasse.
Mais c'est vrai. Mais ouais, mais c'est vrai.
Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur les prothèses pipe
Par contre, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on en soit à un stade où, justement, il y a beaucoup de femmes qui trouvent qu'elles ne sont pas féminines parce qu'elles n'ont pas de seins. Mmh. Donc, si tu veux, féminité égale gros seins, donc masculinité égale gros kiki.
Voilà.
On en est à ce stade-là.
On est dans cette société-là.
Mmh. Alors, j'ai regardé un petit peu l'histoire...
Les présidents en grosse montre. On peut aller loin comme
ça. Comment on en est arrivé à le gros sein? C'est de la mode, évidemment. Il y a eu la mode en Grèce, c'était les femmes plates. On s'aplatissait la poitrine. Les femmes grecques s'aplatissaient la poitrine parce que la mode était androgyne. Il ne s'agissait pas d'avoir de sein du tout.
Dans les années 60, c'était le cas. Les petites anglaises étaient des planches à pain.
On a eu les années 20 avec la mode des garçons. Entre-temps, alors il y a eu... donc ça, c'est 1920-45. Il y a eu la mention du soutien-gorge à coussinet gonflable. Alors là, on a commencé à voir, après la Deuxième Guerre, la vache laitière est réapparue. Alors, c'est formidable, c'est Howard Hughes, vous voyez, qui a inventé un soutien-gorge à bonnet pointu.
Gonflant.
Vous voyez les soutiens-gorge dans les films, là, avec
les
seins ovules,
c'est,
là.
C'est grave, ça.
Eh bien, c'est Howard Hughes. Alors ça, c'est étonnant. Qui a inventé ça. Alors,
dans 70, les péplums, ça rappelle les péplums des années 50. Avec les,
avec
le début de la couleur et les seins pointus, c'était waouh.
70, évidemment, on revient. C'est la femme, du coup, plus plate, qui affirme sa féminité, mais qui n'a pas besoin de se mettre en avant. Et là, on est revenu. Alors, à mon avis, c'est très simple. Moi, je pense que c'est l'industrie du porno qui a remis ça à la mode.
Oui, je
n'ai pas d'autre explication.
Non, tu as raison,
Ah, c'est pas bête.
Tu as raison, c'est probablement ça.
Oui. On aura un sujet la semaine prochaine ou la semaine d'après, pas la semaine prochaine puisqu'on n'est pas...
On fera un spécial.
Je voudrais qu'on fasse un sujet poil, moi, mais on n'en parlera pas. Là,
une
on
émission
pas le
sur
temps.
Le sexe, hein, on en parle très fortement.
Sur le poil, en tout cas.
Tout de suite a élargi en disant qu'on fait une émission sur le sexe.
Moi, ce qui me choque en tant que femme, c'est qu'on est soi-disant dans une libération et qu'on essaye de nous faire ressembler à des critères de 90, 60, 90 C ou D.
Moi, j'aime bien, moi.
Les femmes qui ressemblent à ça dans la vraie vie, il y en a presque pas.
Mais on est au courant qu'il y en a pas beaucoup. Hein.
Les poupées Barbie.
C'est pour ça qu'on les regarde. Quand tu en as, on les regarde beaucoup.
Des fesses étroites et rebondies, une taille extrêmement fine et une paire de nibards incroyable.
Ça n'existe pas.
Et comme disait Coluche, c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux.
Voilà, donc j'aimerais que quand même...
C'est très chouette, très joli ton appel pour toutes les femmes qui ne font pas du 90,
mais elles sont
60,
légion.
90,
et mes amis qui avaient des gros seins, parce que les gros seins c'est quoi aussi? Si on se fait opérer parce qu'on a des trop gros seins
et qu'on a
la colonne vertébrale qui morfle. Donc j'aimerais bien qu'on revienne à une image un peu plus haute de ce que c'est que la féminité.
Ah, c'est très joli, voilà.
Je sais pas, on n'est pas des vaches, quoi, les filles. Hein. Ça suffit, quoi.
Merci Marie, nous ne sommes pas les mecs tous des agriculteurs. Voilà, c'est ça qu'elle voulait dire, quoi. Alors moi j'ai une petite vanne avant qu'on écoute de la musique là.
En revanche, on est tous des pauvres. Voilà.
Je vais vous poser une question et je vous répondrai évidemment. Vous avez qu'un petit peu de temps pour réfléchir et celui qui nous donne la réponse pendant la coupure musicale gagnera toute notre considération. Donc je vous pose la question, à part l'UMP, le PS, le FN, les écologistes, le Front de Gauche, le NPA et le MoDem, qui est le symbole de la démocratie? Voilà, vous avez 3 à 4 minutes pendant la coupure musicale pour réfléchir à cette question fondamentale. Qui est le symbole de la démocratie? Je répète, vous êtes toujours sur Radio Saint-Ave, vous êtes toujours sur Les Tontons, et on va s'écouter un petit...
Le disque de la semaine, truc. Qui s'appelle Les Vendeurs d'Enclume, c'est le nom du groupe. C'est un peu lourd hein, comme truc, mais il paraît qu'ils ont une bonne excuse, et il va y avoir une interview sur Radio Saint-Afrique demain. Ça ne marchera pas à la rediffusion, mais demain, donc, on aura droit à l'interview du chanteur. Alors, je ne sais pas, Chloé, tu as mis quel numéro, la 3? Eh bien, c'est pas mon genre! Tiens, à propos des...
On rappelle le téléphone pendant que les ça prothèses. Démarre gentiment, 05 65
49
Marie, 29
94.
Quel métier?
Adèle m'a quitté l'autre matin pour un mini minable à moins que rien. Adèle m'a quitté l'autre matin, je le vis. Adèle m'a quitté l'autre matin pour un mini minable à moins que rien. Adèle m'a quitté l'autre matin, je le vis très bien. C'est que c'est pas mon genre, vous savez. Quand l'amour me fait des misères, de me répandre et m'abaisser, comme certains amants suicidaires, à supplier la permission de me faire l'ombre de la main du chien de je ne sais qui. C'est pas mon genre, puis comme elle dit, c'était pas sa meilleure chanson. C'est pas mon genre, après d'aller jouer les mauvais perdants, de me faire du mal exprès, puis de me confier à ses parents, ou de demander aux copains de choisir son camp ou le mien. Sans oublier de rappeler que c'est moi qui leur ai présenté. C'est pas mon genre, puis de toute façon, nos copains c'était tous des cons. Heureusement, dans ces situations, et grâce à ma sagesse tantrique, je sais laisser voler les papillons vers d'autres soleils exotiques. Heureusement, dans ce genre d'affaires, content qu'elle soit heureuse, je me laisse voler mon petit lépidoptère. Je suis comme ça, j'ai l'âme généreuse. Adèle m'a quitté l'autre matin pour un mini minable à moins que rien. Adèle m'a quitté l'autre matin, je le vis. Je le vis. Adèle m'a quitté l'autre matin pour un mini minable à moins que rien. Adèle m'a quitté l'autre matin, je le vis très bien. Et c'est pas mon genre non plus d'aller pleurer sous ses fenêtres, faire semblant que je me suis pendu par désespoir et par la tête. C'est pas mon genre, puis c'est stupide, je me suis flingué la carotide. C'est pas mon genre du tout de couper les pattes à un poulet sur les conseils d'un marabout sous la troisième lune de juillet pour y refiler la choucoune et que rien dans ma plan moumoune. C'est pas mon genre, puis croyez-moi, ça coûte cher et ça marche pas. Le pire, c'est que la garce pleure bien mieux que moi et tout le monde s'apitoie sur cette pauvre grimace. Mais ses sanglots lui servent de solution saline et coule sans réserve sur chaque égratignure, rougissant sa figure de larmes d'éosines. Mais elle est belle, belle, si vous saviez, belle comme une biche, belle. Ça trompe énormément.
Voilà, retour sur les tontons flingueurs en ce jeudi matin ou en ce jeudi soir ou en ce samedi après-midi. Vous faites comme vous aimez. Vous pouvez, si vous êtes jeudi matin, par contre, nous passer, je rappelle souvent le numéro, il vous reste une petite demi-heure, surtout pour le débat qui vient, 05 65 49 29 94. J'ai posé une question fondamentalement importante avant ce petit titre. Qui est le symbole de la démocratie? Alors, personne n'a téléphoné pour répondre, c'était trop compliqué.
Bah, c'est Radio Saint-Afrique.
C'est Radio Saint-Afrique, voilà. Alors, c'est pas l'UMP, c'est pas le PS, c'est pas le FN, c'est pas les écolos, c'est pas le Front de Gauche, c'est pas le NPA et c'est pas le Modem. En réalité, c'était un peu dans le prolongement de la discussion, c'est le string. Pourquoi c'est le string? Parce que c'est un symbole évident de la démocratie. Il sépare la gauche de la droite, il protège le centre... Il fait rebondir le point de vue de chacun et unifie, c'est là la tête décomposée
Chloé,
de Chloé derrière
Chloé
la vitre.
Se tient le front.
Il fait rebondir le point de vue de chacun et unifie le regard du peuple. Seul inconvénient, le string, c'est comme la négociation. Il ne faut pas trop tirer sur la ficelle parce qu'on finit par l'avoir dans le...
Non, ouais, voilà, alors voilà. Bon, donc...
C'était nul. Grand moment de solitude à la radio. On se lâche, c'est Noël. Hein.
C'est le genre de vanne qui tourne sur Internet.
Gilles, donc c'est
non, mais c'est
vanne,
vrai,
voilà.
C'est mignon.
Puis il faut se lâcher.
Ça vole pas très haut.
Sauf dans les fréquences hautes.
Non, mais moi, ça me rappelle historiquement un jingle de Radio Saint-Af. C'était sur le string.
C'était du même niveau.
Mais en été, tu enlèves le string, et tout le monde a peur.
J'aurais bien aimé entendre ce jingle, franchement. Un jingle autour du string.
Oui, bien sûr, on en a fait plusieurs.
Donc à tous les gens qui trouvent que nous sommes trop sérieux sur cette antenne, nous allons
Radio
le dire une bonne fois.
Ça te fait péter l'élastique.
Voilà, nous allons le dire une bonne fois pour toutes.
Non, mais il y en a plein, hein, comme ça.
Puisque voilà, pour tous ceux qui disent vous êtes trop sérieux,
alors,
vous traitez toujours
les
sujets.
Ceux qui veulent écrire des jingles pour Radio Saint-Afrique, vous contactez immédiatement la radio pour proposer des
Sur
choses,
Internet
parce que là,
ou autre.
Il y a besoin apparemment.
On est demandeur. Là, vous pouvez tout ce qui sort de Bitcoin. Cul-poil, on l'a dit, on le répétera pas.
Hein.
Voilà, merci Gilles, merci Gilles de nous rappeler l'essentiel. Vous êtes donc, je vous rappelle
elle est
que
atterrée.
C'est
Marie est atterrée.
Je vous rappelle que c'est une émission de la rédaction de Radio Saint-Afrique.
Commentaire de l'actualité qui est sur soi-disant à un certain niveau. Et alors là,
Mais c'est Noël. Écoutez.
Non, en réalité, pendant la coupure, on vous explique ce qui s'est passé. D'ailleurs, Marie a fait tourner des tic-tac pendant la pause. On se demande ce qu'il y avait dedans. Et deuxième paramètre, on a dit quand même qu'il fallait que on impose une minute de conneries dans cette émission systématique pour dire n'importe quoi, parce que là après on attaque des sujets
passer le supposé.
Voilà, donc tous ceux qui veulent entendre parler d'autre chose, restez avec nous, et tous ceux qui veulent entendre parler de bip bip bip, cassez-vous, parce que maintenant c'est sérieux. La Turquie, cadre général, on pose un petit peu quand même, voilà, la Turquie est actuellement dans des relations extrêmement tendues, on va dire, avec le gouvernement français. Alors moi j'aime pas dire avec la France, parce que c'est un petit peu restrictif, gouvernement français, mais ça date quand même depuis un petit moment. Alors, de quoi s'agit-il? C'est très simple. Les Français se donnent le droit, d'un point de vue politique, moral, de juger la Turquie pour son absence de reconnaissance du génocide arménien, et ce suit depuis quand même pas mal de temps, puisqu'il faut quand même savoir que en 2006 et en 2001, donc pas seulement sous le même gouvernement, on s'était occupé un petit peu, j'irais à titre personnel, en tant que grand moraliste de la planète, de déposer une proposition de loi pour dire que voilà, le génocide devait être absolument reconnu, le génocide ne devait pas être nié. Bon,
non, mais
question...
il a été reconnu, il y a une loi qui est passée
voilà,
en France,
il y a une loi qui est passée
ça
en 2001.
Est, fait,
voilà. En 2001, une loi reconnaît. Et le Parlement français vote une loi reconnaissant le génocide arménien en 2001, mais en 2006, la proposition de loi qui est déjà déposée à l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs n'a pas été adoptée, vise à rendre sa négation punissable de 5 ans de prison et de 40 000 euros d'amende. C'est la même loi qui est proposée aujourd'hui et qui fait qu'on se refrite à nouveau avec les Turcs. Et nous, on a trouvé quand même que c'était beaucoup plus important que ça paraissait, parce que il n'y a pas qu'une raison là derrière tout ça. On peut se demander un petit peu quels sont les objectifs. Donc,
est-ce que
c'est un coup politique, Gilles, pour toi, uniquement, un coup électoraliste?
Il y a plusieurs facettes, hein. Il y a plusieurs bandes comme au billard. Il y a déjà un truc, moi je dirais, c'est psy, bien entendu, et ça remonte toujours à notre président de la République qui, depuis le début, apparemment, il n'aime pas trop les Turcs.
Ah bon?
Il y a un souci avec la Turquie. Ne notre Nicolas Sarkozy. Alors,
comment tu peux dire ça, toi, comme
ben,
ça
je me suis repenché sur son curriculum vitae qui avait été... Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein, c'est un monsieur sous un pseudo, il s'appelait Yaël Rolognez, qui avait fait le manuel vaudou de Nicolas Sarkozy et qui avait retracé un petit peu son arbre généalogique. Et figurez-vous qu'en 1628, la famille de Miali Sarkozy, c'est-à-dire un arrière-arrière-grand-père, qui étaient des petits paysans au départ, hein, ont été anoblis par l'empereur Ferdinand II de Habsbourg pour avoir bouté les Turcs hors du territoire.
Ah ouais.
Donc,
c'est historique presque.
C'est un truc historique et génétique chez lui, quelque part. Hein. Bon, alors, il a ça qui lui traîne un petit peu. Bon, alors, je ne sais pas si c'est très conscient, si c'est très conscient de sa part. Et puis.
On ne fait pas un coup politique à partir de ça.
C'était un petit peu le clin d'œil, bien entendu, peut-être un peu lourd. Il a un copain d'enfance qui s'appelle Monsieur Devedjian aussi. On lui a pris pas mal la tête aussi avec tout ça. Et puis, il y a, je crois, 500 000 Français d'origine arménienne de la diaspora qui habitent aux alentours de Marseille.
Marseille, Paris, Lyon.
Voilà.
Maintenant qu'ils sont arrivés, et ça va nous donner un peu l'occasion pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure, de d'élargir un petit peu, parce que ce génocide arménien, tout le monde en parle, mais en réalité, on n'est pas très nombreux à savoir de quoi il s'agit, donc ça vaut quand même le coup d'essayer de comprendre.
Surtout pour les jeunes générations, ça veut rien dire.
C'est quoi génocide, ça veut dire quoi? Et les Arméniens qui sont arrivés donc en France au début du siècle, pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils ont quitté le territoire, on va dire, arménien?
Mais je trouve ça très intéressant. Au moment où on parle d'identité, où on parle d'immigration, etc. La France est composite, la France est faite justement
de vagues d'immigration
la diaspora arménienne en est une.
Ce qui fait notre richesse, quoi.
Et ce qui fait notre grande richesse. Mais c'est assez paradoxal que notre gouvernement, de temps en temps, ça l'arrange et de temps en temps, ça l'arrange pas.
Alors, Israël, justement, le français de souche, ça n'existe pas. C'est parce que c'est des choses, donc les extrêmes droites, il y a des sites lamentable qui s'appelle par exemple François de Souche, avec des gens qui revendiquent une appartenance française. Ça n'existe pas, nous sommes une mixité complète et heureusement, ce qui nous permet d'avoir... On est vachement mieux que les autres.
Ouais, mais il y a quelques consanguins dégénérés quand même. Tu peux pas le nier. Je veux dire, il y a des grandes lignées.
Les très purs sont complètement dégénérés, bien sûr.
Si tu grattes un petit peu, tu vois dans l'arbre généalogique qu'il y a des provenances qui peuvent venir de l'extérieur. On est une terre qui a été envahie.
Toute manière.
Et après, il y avait la mer après chez nous. Donc les gars, ils restaient.
Je veux dire,
accueillants ici.
Je veux dire, seul le con ne peut pas se rendre compte pour tous les gens qui ont eu des chiens que nos bons vieux bâtards étaient beaucoup plus intelligents que tous les pures races qu'on a pu avoir. Je veux dire. Et en plus, ils sont plus résistants sur la durée. C'est-à-dire que le pure race, à 10 ans, il commence à avoir des problèmes d'arthrite. Et après le chien, berger allemand, tout ça, à 12 ans, c'est mort, un berger allemand à 12 ans.
C'est vrai
alors que le Kiki a sa mémère qui lui a été croisé pendant 40 générations, à 15 ans, 18 ans, 19 ans. Il emmerde encore tous les voisins dans les cages d'escalier. Non, ça marche bien, je te jure. L'inconsanguinité, t'as raison, Marie, c'est pas bien. Parlons de la Turquie, parlons un petit peu du génocide arménien. Après cet emballement complètement délirant. La Turquie et l'Empire ottoman, on en reparlera dans deux minutes. Par contre, on va d'abord revenir un petit peu sur le génocide. Il a eu lieu, ce génocide, entre avril 1915 et juillet 1916. Les deux tiers des Arméniens qui vivaient sur le territoire actuel... Les deux tiers des Arméniens qui vivaient sur le territoire actuel de la Turquie ont été exterminés au cours de déportations et de massacres de très grande ampleur. C'est pour ça qu'on utilise le mot génocide.
Et ça a été planifié.
Exécuté par le parti au pouvoir à l'époque, qui s'appelait le Comité Union et Progrès, on parle donc du parti au pouvoir,
plus
connu sous le nom de Jeune Turc, dirigeant l'Empire ottoman et engagé dans la Première Guerre mondiale aux côtés de ce qu'on appelait les empires centraux. Considéré comme un des tout premiers génocides du XXe siècle, il a coûté quand même la vie à 1 200 000 Arméniens d'Anatolie et du haut plateau arménien.
Alors les Turcs ne sont pas d'accord, ils disent qu'il y en a eu à peine 500 000.
Bon. Alors, précision quand même.
Ce qui est déjà beaucoup trop, mais bon.
Les Turcs qu'on a un petit peu tendance aujourd'hui à nous restreindre un petit peu en termes de vision, il faut quand même rappeler que l'Empire ottoman, la Turquie faisait partie de l'Empire ottoman, ils étaient d'ailleurs constituant en grande partie de l'Empire ottoman, c'est un empire quand même qui a duré de à peu près de 1300 à 1922. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est 6 siècles d'histoire. Il a laissé la place, entre autres, à la République de Turquie. Au départ, l'Empire ottoman, il est fondé par un clan qu'on appelle Turkside, qui vient lui-même d'Anatolie, l'endroit où il y avait les fameux Arméniens. L'Empire ottoman, il s'étendait, pour vous donner une idée, au moment de la puissance de l'Empire ottoman, il y avait 3 continents. Il y avait tout ce qu'on appelait l'Anatolie, le plateau arménien, les Balkans, le pourtour de la mer Noire, la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, la péninsule arabique et l'Afrique du Nord, à l'exception du Maroc. Je ne sais pas si vous imaginez.
C'est énorme.
C'est un truc de malade. Ça a été un des empires les plus puissants.
Mais c'est peut-être ça qui fait peur à certains, peut-être.
En réalité, c'est dans le cadre de l'extension de l'Empire ottoman que les Turcs ont, on peut le penser, massacré ou déplacé un certain nombre, une quantité hallucinante d'Arméniens qui sont après...
Bah, ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient probablement leur indépendance ou quelque chose comme ça.
Et qui ont après migré, immigré pour sauver leur peau un petit peu partout et particulièrement en France où une communauté très importante effectivement est installée.
Il y en a d'autres qui ont des problèmes avec la Turquie, ce sont les Kurdes. Alors, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein.
C'est marrant que tu parles des Kurdes parce que tu parles de problèmes. Il faut bien comprendre comment ça s'est passé. Justement les déportations et les massacres des Arméniens, ils ont été mis en œuvre d'une façon assez méthodique, mais à l'échelle locale. C'est-à-dire que tu avais des responsables avec des districts, c'était très organisé, des provinces qui rassemblaient les mecs, hein, les administrés arméniens. Et puis il y avait les soldats et les gendarmes ottomans, eux, qui faisaient l'escorte des convois. Alors on escortait les convois jusqu'au désert, ils provoquaient, les mecs ils faisaient les exécutions dans le désert, et quand ils voulaient pas faire les exécutions eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient faire ça par des groupes de bandits armés qui étaient comme par hasard, surtout des Kurdes, qui étaient en concurrence séculaire avec les Arméniens dans le sud-est anatolien. Et comme on voit que dans l'histoire tout est lié, aujourd'hui les Turcs et les Kurdes effectivement s'entendent très très mal, mais à l'époque les Turcs utilisaient les Kurdes pour générer une partie des massacres. Alors, ceci étant dit, derrière on voit bien le discours français, ah les méchants Turcs, ils ont tué les Arméniens. Il y a autre chose derrière, il y a le coup politique que tu suggérais Gilles. Ce coup politique, pourquoi? Simplement la femme qui a proposé cette proposition de loi.
Ce n'est qu'une proposition de loi.
S'appelle Valérie Boyer et elle a un nom un peu bizarre, elle est conseillère communautaire à Marseille, déjà le nom fait très envie, conseillère communautaire à Marseille, et effectivement on sait que la communauté arménienne qui n'est pas forcément de gauche en France va compter cher au moment de l'élection présidentielle. Mais au-delà du coup politique, on peut se demander si tout ça n'a pas pour objectif un petit peu à l'échelle européenne de montrer la Turquie du doigt une fois de plus, d'éloigner l'idée du rapprochement ou de l'entrée même de la Turquie en Europe. Et là j'aurais qu'on élargisse un petit peu.
Notre président a toujours été contre, hein, l'argument qu'il emploie très souvent, regardez la carte, on voit bien en regardant une carte que la Turquie n'est pas en Europe. Ce qui est totalement faux, c'est la porte de l'Asie, mais une partie de la Turquie se trouve en Europe.
Donc Marie, tu as des questions par rapport à ça, toi, la Turquie, l'Europe, tout ça, tu voulais hier, tu avais dit que tu voulais poser plein de questions.
Oui, je voulais, tu as déjà répondu pas mal,
mais...
T'as posé le cadre. Non, moi, alors, la question, la première, c'est pourquoi, en dehors des manœuvres électorales, pourquoi est-ce que la Turquie... ne veut pas reconnaître ce génocide. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas se dire oui, écoutez, on a effectivement zigouillé.
Alors moi je te retourne la question. Pourquoi finalement la Turquie n'intervient pas dans la politique française en demandant aux Français de reconnaître les massacres en Algérie? Est-ce que c'est de notre devoir d'aller demander à la Turquie de reconnaître ce génocide? Nous avons le droit de le condamner, on a le droit de le condamner, de voter une loi en disant voilà, nous condamnons, nous, phénomène. Mais de quel droit? Pour moi, on est dans le cadre de l'ingérence limite. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est de l'ingérence totale, je veux dire. En France, on a mis très longtemps à reconnaître certaines choses. Hein. Certains ont loué Jacques Chirac, qui a reconnu ce qui s'est passé au Veldiv, mais il n'y a pas longtemps.
On a
mis de très, très nombreuses
années.
C'était
quand ça? Il a reconnu ça quand, à peu près?
Une dizaine d'années?
C'était lors de son premier septennat, je crois. Mmh. Hein, donc,
Oui, on ne s'est pas excusé auprès des Juifs avant, donc il y a 10 ans.
Pas trop, quoi. Mitterrand l'avait fait, mais du bout des lèvres, pas vraiment, etc.
Et la SNCF vient juste de le faire. Hein,
oui.
Pour avoir déporté du monde. Hein,
et
il faut savoir
que la France l'a toujours pas fait par rapport aux Algériens qui ont été balancés à la flotte sous les ordres de Papon.
C'est bien pour ça que j'ai pris ce sujet-là en 1965 en France.
Donc si on se met à gratter, ça pue, quoi, vraiment, et dans tous les pays.
Oui, donc on est donneur de leçons.
Alors qu'on ferait mieux de balayer devant notre porte. Ça, c'est une chose.
Ça ne retire rien au massacre et au fait qu'on condamne évidemment unanimement et fortement n'importe quel massacre. Et les Arméniens, dont on a très peu parlé pendant la guerre, parce qu'on a souvent parlé du massacre des Juifs, mais les Arméniens ont été énormément occultés dans la dénonciation des massacres, donc c'est quelque part leur rendre leur place et leur importance. Ils ont perdu 1 200 000 personnes, et c'est quelque chose d'horrible, bien sûr.
Pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça impliquerait pour les Turcs? Je pense que ça serait peut-être un petit peu comme pour la Shoah. Les Arméniens ont été spoliés. Donc ça impliquerait que le gouvernement turc rend en bourse probablement. Ah oui. Voilà, donc il doit un y avoir ennuyeux. Quand même pas mal d'argent en jeu, encore une fois. C'est un petit peu ennuyeux. Et puis, il y a la fierté, politiquement parlant, c'est un truc qui ne passerait pas. Quoi. C'est des vieilles haines, ça ne passerait pas au niveau du peuple turc. Bien que certains intellectuels, certains écrivains sont pour. Hein, sont du côté humaniste et sont pour une reconnaissance. Il faut pas
ne
globalisons pas tous les Turcs, alors, ne leur mettons pas tout
Monsieur
ça sur
Larcher,
dos, quoi, je veux dire.
Gérard Larcher, qui est quand même quelqu'un de droite, vient d'annoncer qu'il ne voterait pas cette proposition de loi sous l'argument suivant. Il a dit « Laissons ce genre de travaux aux historiens.
Absolument.
Nous n'avons pas à l'Assemblée nationale à avoir des lois qui touchent au secteur mémoriel. » Et rien que pour ça, moi je suis à 100% d'accord.
Complètement.
C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de députés, même de droite, qui ne voteront pas cette proposition de loi. Hein.
Surtout que donc, tu as dit, Gilles, tout à l'heure, qu'elle avait déjà été proposée
en 2006.
En 2006.
Et refusée.
Alors, effectivement, on peut se demander pourquoi ça sort maintenant.
Et c'était déjà la droite au pouvoir.
Bah, ça sort parce qu'on est en campagne électorale. Il faut quand même savoir que Alain Juppé est contre ce genre de choses. Il a dit que cette proposition de loi est intellectuellement, économiquement et diplomatiquement une connerie sans nom.
Monumentale.
C'est Dixit, donc le ministre des Affaires étrangères.
Économiquement, parce que moi j'avais lu effectivement, oui, les Turcs prendront des mesures de rétorsion économique.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on s'en fout ?
Représailles.
Et alors ?
Hier, préparation pendant l'émission, t'es tombé des nues quand déjà on a rappelé que la Turquie, c'était la 17e puissance économique mondiale. C'est pas rien, la 17e puissance économique mondiale. Mais surtout que, et là on va parler, il nous reste une dizaine de minutes, on va parler un petit peu de notre expérience. L'image que l'on a de la Turquie telle qu'elle nous est vendue, telle qu'elle nous est relayée, et particulièrement la seule image de 90% des Français, c'est le film de Midnight Express qui a conditionné une génération complète à une image de la Turquie archaïque et ainsi de suite. Pour être allé en Turquie, la Turquie c'est pas que Midnight Express. Hein.
Pour les jeunes qui nous regardent, c'est un film qui parle des prisons turques qui est absolument épouvantable.
Horrible.
Pendant deux heures avec des gens qui sont torturés.
Ouais, d'Alan Parker.
D'Alan Parker, tout à fait, qui donne pas très envie, effectivement.
Excellente musique, mais...
Mais très glauque, le film, très dur.
Très glauque,
et ça a conditionné, non, mais il faut le dire, ça nous a conditionné, notre génération, ce film. C'est un film qui nous a vraiment faussé l'image complète qu'on pouvait avoir de la Turquie.
Alors moi, j'ai eu la chance d'aller en Turquie à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est un truc qui faisait peur à tous les voyageurs, quoi. Il fallait pas se retrouver dans une situation difficile
à Istanbul,
en Turquie.
Voilà,
absolument. Ceci dit, c'est un pays magnifique, où il y a énormément de gens francophones, francophiles aussi. Enfin, moi, à l'époque, j'en ai pas mal rencontré. Il y a une civilisation extraordinaire. Istanbul est une ville totalement magique. C'est peut-être la ville qui m'a le plus imprimé dans tous les voyages.
C'est culturellement extrêmement riche.
C'est énorme.
Riche.
Et je vous incite à aller faire un petit tour à Istanbul.
Toi aussi, Gilles, t'as été en...
Brièvement, je voudrais simplement préciser, d'abord, il n'y a pas une Turquie, il y a deux Turquies. Il y a la Turquie orientale, la Turquie occidentale, avec le Bosphore au milieu. Et c'est très, très marquant, ça, dans ce pays, parce que vous avez une Turquie qui était, attention, ne pas tomber dans le piège. Tout le monde dit il ne faut pas faire rentrer la Turquie dans l'Europe. C'est une aberration complète de ne pas analyser la situation d'un peu plus près. Parce que je peux vous dire qu'il y a de fait une grande partie de la Turquie qui est occidentalisée, c'est la partie qui est donc tournée côté ouest, on va dire, qui est occidentalisée, qui consomme les mêmes choses que nous. Vous retrouverez les mêmes produits, les gens boivent, les femmes boivent aux terrasses des cafés, on peut fumer dans la rue, on n'a pas l'impression d'être dans un pays musulman complètement flippé. Rappelons quand même que Atatürk, au début du siècle, a transformé ce pays en un des rares pays laïcs sur la planète avec la France. La laïcité, c'est un concept, il y a à peine deux ou trois pays qui le partagent sur la planète. Les Turcs en font partie, c'est fondamental.
Par contre, c'est quand même un régime militaire. Hein,
le militaire est garant chez eux, le militaire est garant que ce que Atatürk a mis en place ne sera jamais atteint. C'est vraiment l'armée est une garantie démocratique chez eux. C'est pas la même conception que chez nous.
Il y a un gouvernement,
modéré, modéré.
Islamiste modéré. Et tout le monde a eu très.
On peut pas être islamiste et modéré. On peut être musulman.
Musulman modéré, si tu veux. Oui, bon.
Attention à la sémantique.
Oui, non, tu as raison. Mais à l'époque,
je vais t'expliquer pourquoi on dit islamiste modéré.
Mais à l'époque, tous les pays se sont émus en se disant ça y est, la Turquie va revenir en arrière et tout, ce qui n'a absolument pas été le cas. Hein, donc il faut quand même...
Il y a quand même des pressions sur la société actuellement. Il y a des gens et des associations qui ont un petit peu peur. Parce que, pourquoi on dit islamiste modéré? Tu dis musulman, non, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de musulmans qui pratiquent leur religion tranquillement. Et les islamistes, eux, veulent imposer la charia, qu'elle soit douce ou qu'elle soit forte. Et c'est ce qui fait la différence peut-être entre un musulman et un islamiste, modéré ou non. C'est que la charia intervient dans la vie des gens, dans la constitution, prend la place de la constitution et se substitue à tout ce qui est démocratique.
Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de laïcité.
Il n'y a plus de laïcité.
séparation entre l'Église.
On peut être dans un pays laïque, avec un pays laïque musulman ou catholique, ou peu importe d'ailleurs. Par contre, on peut être dans un pays où l'islam modéré impose une charia modérée, et là, c'est plus du tout la même. Il y a quand même des inquiétudes actuellement en Turquie, parce qu'il y a des attaques, quelques attaques contre la laïcité qui sont faites discrètement, d'une façon insidieuse, autour du voile imposé, des choses
mais
comme ça.
On voit quand même
le
paradoxe qu'on a intégré la Grèce à l'Europe et on s'est fait l'Europe s'est fait entuber par un pays qui a dissimulé des comptes, etc. Les Grecs et les Turcs se sont toujours détestés parce qu'ils se sont combattus aussi pendant de nombreuses années et on refuserait la Turquie qui, elle, au niveau économique, est à un niveau vraiment pointu.
Dit,
oui, oui,
hein.
voilà.
C'est énorme, oui.
Donc c'est complètement paradoxal.
Et pourquoi
paradoxal.
On n'en veut pas de la Turquie?
Eh bien, justement, parce qu'il y a cette ombre, je pense, cette ombre islamique. Je
vous
ne
croyez
sais quoi.
Que c'est juste pour ça?
Et puis c'est un dada de notre président.
Alors,
de la République.
Il y a un flip en réalité. C'est-à-dire que, tu vois, si la Turquie était divisée en deux pays, par exemple, tu vois, ce qu'on disait à l'instant, qu'il y a une partie ouest avec une identité, je pense que les Turcs feraient partie de l'Europe depuis un moment. Le problème, c'est qu'on ne veut absolument pas assumer la partie orientale de la Turquie, parce que là, c'est très compliqué. Rappelons qu'on a des frontières communes avec la Syrie, avec la Turquie, la Kurdistan. Il y a ce problème-là qui est un problème majeur, l'Anatolie centrale.
Alors, je voudrais juste dire un petit mot pour les Aveyronnais, hein, que quand même les récentes découvertes ont prouvé que l'ADN, par exemple, des gars des glagottes de Treille, la grotte de Treille,
la glotte,
sont...
la glotte de Treille,
la glotte de Treille. Alors, à côté de Saint-Paul-des-Fonds, il y a des
chez nous,
à côté de Saint-Paul-des-Fonds, donc il y a eu un cimetière qui a été découvert, sépultures qui date de 2500 avant Jésus-Christ. Découvert par Louis Balzan. Et alors, elles ont pu être analysées avec l'ADN. Il y a peu de temps. Et il se trouve que tous les hommes présents dans cette grotte sont d'origine anatolienne.
Donc de Turquie.
Alors les deux femmes, apparemment, elles étaient du coin. Mais on peut se dire qu'ils sont quand même reproduits. Donc, donc clairement, le sud aveyronnais vraiment
est
turc. Et alors,
exagérant rien, a du sang turc.
Alors, écoutez,
voilà, un petit peu dans les veines.
Il en a beaucoup du sang turc. Pourquoi les statues menhirs qui sont notre gloire
notre
ici
gloire
sont
locale.
Clairement d'origine anatolienne et même on peut dire qu'elles sont d'origine de Mésopotamie. Parce que j'ai ici un document photographique qui prouve que les statues menhirs viennent de Mésopotamie, moins 5000. C'est quoi la Mésopotamie? C'est l'Arabie, c'est l'Irak. Mmh. On descend encore plus bas. Les gars, ils ont dû venir, sans doute à l'époque, peut-être avec déjà des troupeaux, de brebis, mais en tout cas, ils sont remontés.
Peut-être que s'il y a du Roquefort et des brebis en Aveyron, c'est grâce aux Anatoliens de l'époque.
Alors, ils ne digéraient pas les frais. Alors, je ne sais pas, mais s'ils avaient des troupeaux. Mais alors, j'ai un dessin de
Marie,
Plantu quand même.
Dessin
de Plantu sous les yeux où on voit un homme des cavernes, clairement turc, il a un turban, il est barbu. Un homme des cavernes turc installé en Aveyron et qui regarde 3500 ans avant notre ère, voilà, qui regarde avec effarement arriver un Gaulois et qui dit « Mais d'où il sort ce type ?»
C'est énorme. On peut parler de ça, il est très bon. Voilà, avant de se quitter, une petite vanne encore. J'ai trouvé ça envoyé donc toujours par un pote. On se demande ce qu'il fait de sa journée. Il devrait travailler, le feignant. Non, pendant ce temps-là, il envoie des vannes par email. Et celle-là, elle est très bien. Moi, j'aime bien. C'est vu dans une manif, sur un panneau, sur une pancarte. Et ça commence comme ceci. « Cher Dieu, je serai bref. Cette année, tu m'as pris mon chanteur préféré, Jean Ferrat. Tu m'as pris mon acteur préféré, Bruno Kremer. Tu m'as pris mon réalisateur préféré, Claude Cabrol ou Chabrol, mon scientifique préféré, Georges Charpak, et finalement mon sportif préféré, Laurent Fignon. Je désire, cher Dieu, simplement te rappeler que mes politiciens préférés sont Sarkozy, Hortefeux, Besson, Copé, Devedjian, Amen. Voilà, c'était
N'hésite
une manière
pas.
Avec un petit peu d'humour de vous dire qu'on se retrouvera, alors il nous reste une toute petite minute, on se retrouvera, nous, le 5 janvier, mais je voudrais quand même, avant de vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes et un très bon Noël, évidemment, pour ceux qui peuvent avoir un très bon Noël, on n'oublie pas sur cette antenne qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement compliqué, qui vont peut-être se retrouver seuls, qui ont leur famille loin ou qui vont pas être très très bien pendant cette période a priori festive. Alors on va vous faire un petit topo pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu notre mère Noël à nous depuis des années sur Sainte-Afrique, à qui on voudrait pour toute son œuvre rendre quand même un petit hommage. Elle s'appelle Yannick, elle se reconnaîtra.
On l'appelle
Yaya, c'est pas du cirage de pompe. Voilà quelqu'un qui depuis des années, aussi bien dans sa manière de travailler que d'être, de vivre, s'occupe énormément des gens, on va va dire entre guillemets, défavorisés ou sur la route, voilà. Et elle, tous les Noëls, elle organise une petite fête, une petite soirée, ça devient
pas
une grosse
seule,
fête.
Elle est avec une association. Hein.
Ça devient une grosse fête, ça devient une grosse fête, ça se passe au caveau de Saint-Afrique le mardi 27 décembre, le mardi 27 décembre au caveau à 20h. Le pire Noël est arrivé, c'est une soirée Noël austérité, joyeux Léon, c'est très branché anticapitaliste, décroissance, déconsommation, mais ça a le mérite d'exister.
Avec
voilà.
Trois groupes, super.
Trois groupes, 5,99€ parce qu'il a fallu payer les groupes, et oui, ils viennent pas gratuitement. Toujours est-il que pour ce prix-là, vous bouffez, vous écoutez de la musique, et ça se fait dans une très bonne,
ouais,
très bonne ambiance.
Petit
bonne ambiance.
Truc, absolument, allez vous inscrire sur les listes électorales avant le
31.
Allez
voter.
Aller voter. Si vous voulez aller voter, inscrivez-vous.
On va se faire tuer par la technique. On vous fait un énorme bisou. On vous souhaite de très très bonnes fêtes et on vous dit à l'année prochaine. Salut à tous, à toutes. Bye.
Au revoir.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous.
J'avais oublié. Il y a 10% d'amende. Pour le retard.
Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.